l'Ancien Testament, livre des Proverbes au chapitre 30, versets 24 à 28. Proverbes 30, 24 à 28. Il y a sur la terre quatre animaux petits et cependant de plus sages. Les fourmis, peuple sans force, préparent en été leur nourriture. Les damans, peuple sans puissance, placent leur demeure dans les rochers. Les sauterelles, qui n'ont point de roi, mais elles sortent toutes par division. Et les lézards, qui saisissent avec les mains et se trouvent dans les palais du roi. Quelle sagesse! Toujours Proverbe au chapitre 6. Et là, lisons le verset 6 au verset 8. Dieu qui nous appelle, nous les humains, à aller en pèlerinage chez les animaux. Va vers la fourmi, toi paresseux. Considère ses voies et deviens sage. La fourmi, elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître, mais elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Et nous terminons avec psaume 104. Psaume 104, le seul verset 18. Psaume 104, le verset 18. Les montagnes élevées sont pour les boucs sauvages. Les rochers servent des retraites aux damans. Les rochers servent des retraites aux damans. Faisons suite à notre enseignement de la nuit du 31 au 1er. Durant cet enseignement, j'ai parlé sur le thème « Régner par la sagesse ». Dieu m'a mis à cœur de poursuivre durant deux dimanches afin de mieux creuser, mieux sonder, mieux saisir les contours de la sagesse. Pourquoi la sagesse? Parce que je le crois fermement qu'elle va servir de fondement, qu'elle va servir de soubassement qui va nous aider à bien vivre non seulement cette année qui a commencé, mais surtout ces 5 ans pour lesquels nous avons la certitude que Dieu veut et va accomplir des choses particulières dans notre vie individuellement, mais aussi dans notre vie en tant que communauté. Et durant ces deux séances, nous nous laisserons enseigner par des créatures étranges. C'est pourquoi nous avons parlé des 4 sources insolites de sagesse. Quand on dit insolite, 3 idées fondamentales sont cachées derrière. Insolite veut simplement dire inattendu, insoupçonné. Mais deuxièmement, insolite veut dire aussi qui surprend, qui étonne. Et troisièmement, insolite veut dire c'est à quoi on ne s'attendait pas. Et durant ces 2 séances, nous laisserons ces 4 sources inattendues, étonnantes, étranges, sources auxquelles on ne pensait pas, nous enseigner la sagesse. Proverbe 30, au verset 24, qui est à la fois une information, mais aussi nous introduit en nous parlant d'une révélation cachée. Au travers de ce verset, les sages éclairés par l'Esprit Saint est rendu capable de voir et de constater des choses que d'autres ne constatent pas. Il dit, il y a sur la terre 4 animaux, petits, cependant de plus sages. Il y a comme une contradiction. D'un côté, on parle des êtres petits, mais de l'autre côté, on parle de ce qui sort de, qui est très grand. On a tendance à croire que les animaux les plus importants, c'est les lions. Le roi de la forêt. On a tendance à croire que c'est l'éléphant. Mais vous savez, Dieu, quelquefois, parle des choses petites pour révéler des grandes choses. Des animaux petits, insignifiants. Mais la Bible dit, cependant, ils sont sages. C'est que les sages veulent dire. Il dit, je vous donne un scoop. Un scoop en termes d'information. C'est une information importante que vous ignorez. Il veut dire, je veux que vous le sachiez, car c'est tellement important. Il veut encore dire, voilà ce que j'ai constaté, et voilà ce que j'ai découvert. Il y a sur la terre 4 animaux, petits, cependant de plus sages. La version française courant dit, il existe sur la terre 4 espèces d'animaux, fort petits, mais qui sont d'une sagesse étonnante. Fort petits, minime, méprisable par la taille, mais d'une sagesse étonnante. La version Darby ainsi que la version Taub disent, il y a quatre choses petites sur la terre, mais qui sont sages d'entre les sages. C'est-à-dire en termes de sagesse, on peut le placer en première position, mais en termes de taille, tout petit, tellement petit qu'il est difficile de le voir à l'œil nu. On peut le tuer sans savoir qu'on en a tué un. Mais quelle sagesse! La version Nouvelle Bible et Second dit, il y a quatre petites choses. Ah, mais il utilise un superlatif, mais suprêmement sage. Petit, mais suprêmement sage. Il nous arrive d'avoir des gens grands en taille, mais suprêmement bêtes. Très âgés, mais suprêmement rétrogrades. Donne-moi quelqu'un qui, malgré sa petitesse, a des choses grandes. Et déjà à ce niveau, nous pouvons établir quatre principes importants et non négligeables que ce passage de Proverbes 30 nous enseigne. Le tout premier principe, c'est que des choses apparemment petites peuvent sortir des grandes choses. Des choses apparemment petites peuvent produire des grandes choses. Cantique des Cantiques, au chapitre 2, verset 25. Les sages disent ceci, prenez-nous les renards, les petits renards, mais qui ravagent les vignes. Les termes ravager, là, veut dire causer des dégâts importants. Et là, on dit des petits renards, mais leurs effets sont grands. J'aimerais dire des petites choses peuvent avoir un impact inimaginable. Dans Jacques, au chapitre 3, au verset 5, la Bible parle de la langue qui est un petit membre, mais qui, comme un petit feu, peut embraser une grande forêt. Petit membre, mais qui peut embraser une grande forêt. Le deuxième principe que ce passage nous enseigne, que de petits contenants peuvent avoir en leur sein un grand contenu. Des petits contenants peuvent avoir en leur sein un grand contenu. Plus que ce qu'on voit, plus que ce qu'on perçoit de prime abord. Dans Marc chapitre 4, versets 31 à 32, Jésus-Christ parle du royaume de Dieu. Mais il dit le royaume de Dieu est semblable à un grain de sénévé, qui lorsqu'on le sème en terre est la plus petite de toutes les semences. Mais lorsqu'il a été sémé, il monte, devient plus grand que tous les légumes qui poussent des grands arbres. Petite sémence! Mais dans cette petite semence se cache un grand arbre. Laisse à cette semence du temps et tu verras cette petite semence devenir un grand arbre. Ne me juge pas partant de ce que mon aujourd'hui te dit. Dans Luc chapitre 1, verset 42, la Bible nous parle des réactions des docteurs de la loi. Ils étaient avec le petit Jésus, 12 ans, un bout d'homme. Mais écoutez ce que la Bible dit, tout ce qu'il entendait était frappé de son intelligence et de ses réponses. Quand ils l'ont vu venir, ils ont vu un petit enfant comme tant d'autres, un petit adolescent, mais ils ne savaient pas que dans ces petits contenus, il y avait une grande richesse, des grandes richesses. Dans ces petits contenants, il y avait un contenu très grand. Troisième principe, c'est qu'il est dangereux de juger les choses et les personnes simplement par l'apparence. Il est dangereux de juger les choses et les personnes simplement par l'apparence, c'est-à-dire par l'extérieur sans aller plus loin. Combien de fois nous avons des a priori et des préjugés négatifs sur les gens et sur les choses. Dans Jean chapitre 1, verset 46, la Bible nous parle du mépris de Nathanaël sur Nazareth. On veut lui dire, il y a quelqu'un qui vient de Nazareth. Écoutez sa réponse, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? A priori. Ah, Seigneur, apprends-moi à savoir que des gens apparemment simples peuvent venir des grandes choses. Dans 1 Samuel chapitre 17, verset 42, la Bible nous parle du jugement négatif des Goliath sur David. Alors qu'il s'attendait à ce qu'il y ait quelqu'un d'assez spécial qui relève les défis. Il voit le champion qu'Israël fait sortir, un adolescent sûrement plein de boutons. Écoutez ce que la Bible dit. Les Philistins regarda David et lorsqu'il aperçut, il les méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant blond et d'une belle figure. Il ne savait pas que ce petit enfant blond avait un palmarès. Il a déjà tué les lions. Il a déjà eu à avoir affaire, même à l'ours. Plusieurs, et surtout les sœurs, malgré leur foi dans le Seigneur, ils ont des problèmes avec les cancrés. Là, Jésus. J'en ai parlé ici une fois. Nous sommes allés évangéliser quelque part et nous voulions rentrer dans la parcelle et nous avons vu un chien sortir. On a l'impression que ce chien, il fait de l'haltérophilie. Costaud. Moi qui étais en première ligne, c'est sûr, si ce chien attaquait, c'est moi qui étais pris en premier. Il y avait trois autres frères derrière moi. Quand j'ai reculé les tout derrière, il a dit, mais pasteur, pourquoi tu fouilles? La Bible dit, ils marcheront sur les serpents et les scorpions. Celui qui était derrière moi, il connaissait sa Bible. Il a dit, les chiens n'ont pas été cités. Ah, il était dans la meilleure position parce que s'il attaque, il y a, c'est moi qui partais en premier. Mais David, il s'avance. Ne jugez pas les gens selon l'apparence. Quatrième principe, c'est que des informations, sources d'enrichissement, peuvent être disponibles sans que nous puissions les saisir dans quelqu'un ou dans quelque chose. Des informations, sources d'enrichissement, peuvent être disponibles sans que nous puissions les saisir. J'aime quand la Bible parle. Alors que le prophète Élie est allé se cacher dans les rochers, il avait dit, il y a eu un tremblement. Et il croyait que l'Éternel pouvait être dans les tremblements et l'Éternel n'était pas là. Il y a eu un grondement et puis il y a eu un bruit léger. Et c'est là où il était. Je m'aurais dit, Dieu est quelquefois dans des choses dans lesquelles nous ne pensons pas. Seigneur, aide-moi à voir la révélation. Dans Genèse chapitre 21, verset 19, le pasteur Atom Soumouma nous a apporté un merveilleux enseignement il y a plusieurs années ici. Cette femme Agar est en train de se plaindre. Elle croit que sa fin est arrivée. Mais la Bible dit, Dieu lui ouvrit les yeux et elle vit un puits. Elle alla remplir d'eau l'outre et donna à boire à l'enfant. Alors qu'elle pensait que tout était fini, une solution n'était pas très loin. Seigneur, aide-moi à avoir l'œil ouvert et les bons pour saisir ce que les autres ne voient pas. Genèse chapitre 28 au verset 16 nous parle de Jacob qui s'éveille de son sommeil et dit, certainement l'Éternel est en ce lieu. Et moi, je ne le savais pas. Seigneur, aide-moi à savoir. Aide-moi à savoir. Jésus-Christ parlant à un groupe des gens, ils ont des yeux et ils ne voient pas. Dans Apocalypse chapitre 2, qu'est-ce que j'allais dire? Dans Apocalypse chapitre 2 et chapitre 3, nous voyons cette parole qui revient à plusieurs reprises. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. L'Esprit parle, mais ne peut capter le message que celui qui a des oreilles. Celui qui sait saisir ces choses. On voit cette parole revenir et revenir. Et ce matin, parmi les quatre créatures toutes petites, nous avons laissé deux d'entre elles nous enseigner. Ces êtres minimes, mais qui ont de grandes richesses. Ce matin, nous laisserons la fourmi ainsi que les damans nous enseigner. Ces deux petits animaux vont nous enseigner trois vérités. Deux pour les tout premiers et une vérité pour les seconds. D'abord, faisons un peu connaissance de ces deux êtres, de ces deux créatures qui vont nous enseigner. Madame la fourmi, qu'es-tu exactement? La fourmi, qu'est-ce donc? Les fourmis sont classées parmi les insectes dans le même groupe que les abeilles et les guêpes. Les fourmis sont des créatures très sociables, vivent toujours en groupe ou en colonie. Les fourmis, dans leur dimension, la fourmi la plus petite mesure 0,75 mm, pas centimètres, millimètres. Et la fourmi la plus grande, c'est simplement 52 mm. Petit. La plus grande fourmi du monde qui a été trouvée en ces jours, et ça a été en laboratoire, mesurait 6 cm. La plus grande des fourmis. Et il semble qu'il y a 12 068 espèces de fourmis recensées jusqu'à ce jour. Les fourmis, ils sont répertoriés à la fois selon les sexes et selon les rôles qu'ils jouent. On parle d'une société des castes. Parmi les fourmis, il y a les reines, nous parlerons tout à l'heure, qui vivent le plus longtemps. Il y a les ouvriers et puis il y a les mâles. Les reines ont la plus grande longévité, à moins qu'ils ne soient écrasés par un géant comme Papa Olivier. Mais s'ils vivent à un endroit, ils peuvent vivre calmement. Les reines peuvent vivre jusqu'à 15 ans, pensez-y donc. Mais les ouvriers vivent entre 3 semaines et une année maximum. Les fourmis qui ont la longévité la plus courte, ce sont les mâles. Juste après avoir fécondé leur vie, s'arrêtent. Pourquoi Dieu l'a voulu ainsi. Les fourmis, ils sont adaptés à tous les milieux. Ils peuvent vivre sur terre, mais ils vivent aussi dans les souterrains. L'un de leurs grands adversaires, ennemis, qui les tue presque naturellement, c'est le froid. Dans le milieu, il fait très froid. Il est rare de trouver les fourmis. Et nous en parlerons tout à l'heure. Les fourmis savent communiquer entre elles et ont une capacité à résoudre des problèmes complexes qu'ils montrent qu'ils sont intelligents. Je ne peux pas comprendre, mon intelligence est liée au volume de mon cerveau. Alors imaginez déjà la fourmi, elle est toute petite. Imaginez sa tête toute petite. Alors on peut s'imaginer son cerveau est comment. Mais une grande intelligence. Regardez les fourmis, quelquefois, il peut prendre un morceau de pain qui peut représenter 1000 fourmis. Et s'il essaie de pousser, il n'arrive pas, il appelle ses amis. Et les voilà ensemble, en train d'amener ça. Et sûrement, ils sont en train de chanter. « Yaï, mamé, tout signé, yomai. » Intelligent. Tout signé, lipao. Leur corps est composé de 3 parties, la tête, le thorax, ainsi que l'abdomen. Leur habitation, qui est appelée fourmilière, est un modèle d'organisation et d'intelligence. C'est pour cela que je comprends, le Seigneur dit, va chez la fourmi et considère ses voies. Quand vous rentrez dans les fourmilières, vous vous rendez compte que tout est organisé. Il y a d'un côté un grenier, là où ils gardent la nourriture. Il y a des chambres à coucher. Mais il y a aussi ce que eux-mêmes les fourmis présentent comme des pomponnières, l'endroit où les fourmis viennent pondre les œufs. Et on se rend même compte qu'après avoir pondu les œufs, quand les œufs se transforment en larves, on les amène de cet endroit vers un autre. On doit aller en pèlerinage. Et quand les larves deviennent des nymphes, on les fait déplacer. Bazamaye les batouana. Bana banzete, nous n'avons pas mon. Les fourmis sont présentées comme des omnivores, c'est-à-dire ils mangent presque tout. Leur régime est varié et s'adapte aux ressources du milieu. Mais l'une des grandes caractéristiques des fourmis, c'est que ce sont des créatures très sociables et qui aiment partager. Fourmis. Mais deuxième créature, ce sont les damans. Les damans sont de mammifères de petite taille, presque de manière, par rapport à la présentation extérieure, comme des lapins. Mais la différence entre les lapins et les damans, c'est que les lapins ont des oreilles assez grandes, mais les damans ont des oreilles rondes et toutes petites. Ils ont l'air d'être des rongeurs, mais il semble que dans l'étude de tout ce qu'ils ont comme gènes, les damans sont des descendants de l'éléphant. Bizarre, de prime abord, on ne voit pas des relations, mais il semble qu'ils viennent de l'éléphant. Leur hauteur, c'est entre 20 et 30 cm, et leur longueur, c'est entre 45 à 55 cm. Les damans pèsent entre 2,5 kg et 5 kg. Ils ont des pattes qui se terminent par des orteils en forme de sabots. Ils peuvent vivre jusqu'à 12 ans. L'une des caractéristiques des damans, c'est que les damans, contrairement aux lapins, les lapins sont prompts. Vite, rapide, vif dans leur attitude, dans leur action et surtout dans leur réaction. Mais par contre, les damans sont très lents. Leur lenteur, comme je dis, est liée à ce qu'ils ont au bout. Au bout, leurs orteils ont comme des sabots. On les appelle les animaux handicapés naturellement. Ils manquent de force au niveau des genoux. Quand on voit les damans marcher, c'est pratiquement comme s'ils sont en train de trembler. Très vulnérables. Et les damans sont une nourriture préférée pour certains animaux. Il semble que l'aigle aime beaucoup manger la viande des damans. Mais il y a d'autres aussi carnivores pour qui leur repas préféré, ce sont les damans. Ils vivent aussi en groupe. Une autre caractéristique des damans, c'est que les damans n'arrivent pas toujours à maintenir leur température intérieure stable. C'est pourquoi quand vous allez là où les damans vivent, ils vivent dans les rochers, je vais en parler tout à l'heure, et dans les rochers, il fait très froid. Et pour maintenir la température, ils sont toujours collés les uns aux autres, afin de ne pas se refroidir individuellement. Leur régime alimentaire, ils sont principalement herbivores. Ils mangent presque tout, partant de l'écorce aux feuilles et à toute autre chose. Ici en Afrique, on les trouve beaucoup dans la partie maghrébine, mais aussi dans la partie subsaharienne. Il y en a beaucoup au Kenya. Au Kenya même, quelquefois, à des endroits pour 100 à 200 mètres carrés, on trouve une grande quantité de damans. Ce sont des animaux diurnes qui vivent plus la nuit. Les matins, il semble qu'ils sortent, ils se placent sur les rochers pour se réchauffer un peu, mais les soirs, ils sortent pour manger. Comme je dis, ils mangent des herbes, des écorces, des feuilles et quelquefois des insectes. Ils ont une très bonne vue et communiquent entre eux par des cris, grondements et sifflements. Mais comme je dis, l'un des problèmes que les damans ont, ils ne sont pas très rapides dans leurs mouvements à cause de leurs pattes, à cause de leur sauté, à cause de leurs sabots et à cause de leur manque de fermeté. Et à cause de cela, comme ils savent qu'ils sont le plus souvent objet des attaques d'autres animaux, ils aiment vivre pas très loin des rochers, nous en parlerons tout à l'heure. Mais qu'est-ce que ces deux animaux petits nous enseignent, que les sages insistent en nous informant? Il dit, humain, Roland Dallot, 1,95 m, 93 kg. J'aimerais que tu saches qu'une petite créature de 0,75 mm a des choses à t'enseigner. Qu'est-ce que ces créatures veulent nous enseigner en ce jour? Avant de parler de deux choses que l'une et une chose que l'autre nous enseigne, j'aimerais d'abord mentionner quelque chose qui est comme un élément commun entre les deux. Des fourmis, il est dit, c'est un peuple sans force. Des damans aussi, il est dit, c'est un peuple sans puissance. Et les fourmis, ces êtres spéciaux et particuliers, nous enseignent la sagesse en nous donnant deux leçons magistrales. La première leçon que les fourmis nous donnent, c'est que demain se prépare. Ça, c'est la grande leçon de sagesse que les fourmis nous enseigne. Demain se prépare. Que des gens qui vivent comme s'il y a seulement aujourd'hui, que des gens qui ne pensent pas à demain, qui n'y pensent pas d'avance, ne prennent aucune précaution et des fois ne veulent pas y penser. Proverbe 30, 25 nous donne deux informations importantes concernant les fourmis. Il est dit, un, ils préparent leur nourriture. Ce qui va les servir, préparer, c'est mettre en état, mais d'avance. Préparer, c'est arranger avant l'utilisation. Ils préparent leur nourriture. Mais deuxième information importante que Deutéronome 30, 25 nous donne, les temps de la préparation. Non seulement ils préparent, mais les fourmis préparent leur nourriture en été. Qu'est-ce que les sages veulent nous dire? Quand les fourmis mettent la nourriture des côtés, c'est un moment où il fait beau. Il y a le soleil. Tout le monde veut jouir du beau temps. Ah, il faut aller des fois en Occident pour voir combien ils ont l'idolâtrie du soleil. Vous voyez, même l'humeur des gens est attachée au temps. Allez en décembre, janvier, février, vous trouverez les gens le visage fermé. Parce que l'air est maussade. Dès que le soleil sort, il fait beau, n'est-ce pas? Et qui sont d'habitude solitaires, chacun pour soi. Dès que le soleil sort, ils veulent en profiter. Mais alors que tout le monde profite du beau temps, alors que tout le monde veut se réjouir, quand sort le beau temps, la fourmi lui a la notion du futur. En été, remarquez une chose, l'abbé dit, il prépare en été sa nourriture. Mais cette nourriture, il va la manger quand? En hiver. C'est entre mai et juin qu'il prépare ce qu'il va consommer entre janvier et février. J'aimerais dire encore plus, il pense à janvier et février, mais en mai. Toi, tu es comme moi, Congolais, qui vit au taux du jour. Bonia, Rosala. On ne pense même pas à demain. On ne pense même pas au jour qui va venir. Mais la fourmi au mois de mai, il pense à janvier, février. Quelle sagesse! Quelle intelligence! La fourmi, j'aurais voulu te laisser la chair ce matin et amplifier les micros pour que tu nous dises. Il fallait. Regardez la fourmi vivre et agir en été. Quand la fourmi agit en été, ceux qui sont superficiels disent elle est déphasée. Ceux qui ne comprennent pas disent elle est anachronique. Alors que tout le monde est en train de se réjouir. Et Azora Tebiloko. Et qu'est-ce qu'elle est en train de rater? Ceux qui ne comprennent pas disent qu'elle est anormale. Alors que tout le monde profite du beau temps, lui, il ne veut pas profiter du beau temps. Fourmi, pourquoi mon coup attend mon allez? On dit c'est un rêveur. On dit c'est quelqu'un qui perd son temps. Pourquoi la fourmi se comporte-t-elle ainsi? Dieu lui a fait grâce de savoir certaines choses. J'en ai retenu trois. Premièrement, Dieu a fait don à la fourmi de savoir que les saisons ne sont pas des réalités permanentes. Et la fourmi le sait. Un don que Dieu lui a donné. Les saisons ne sont pas des réalités permanentes. Elles changent. La fourmi, quand elle voit le soleil, au fond d'elle, elle sait. Le soleil n'est pas appelé à rester. Le soleil ne restera pas toujours. Deuxième chose, encore une particularité que Dieu a fait comme don aux fourmis. Les fourmis savent qu'avec les saisons qui passent, disparaissent certaines choses. Disparaissent des facilités. Il y a des choses que j'ai aujourd'hui, demain je ne veux pas les avoir. Et comme je l'ai dit, la fourmi a comme ennemi numéro un. Le froid. Il peut supporter le soleil, il peut supporter même les températures les plus élevées. Mais plus les températures baissent, plus la fourmi est vulnérable. Et dans la façon dont Dieu l'a créée, la fourmi sait déjà. Vers septembre, octobre, les températures vont commencer à baisser. Septembre, octobre, je peux encore supporter. Mais quand va venir novembre, je ne peux. Je serai obligé de me cacher. Or, si je me cache, je ne saurais sortir pour prendre la nourriture. J'aimerais déjà maintenant, quand les conditions seront difficiles, mettre de côté la nourriture de novembre, décembre, janvier et février. J'aimerais pas être obligé de sortir pour me nourrir et que le froid qui est mon ennemi puisse me tuer. Puisque je sais que certaines facilités vont disparaître. Quand le grand froid va venir, je vais me moquer du froid. Parce que je me cacherai à des endroits loin et je dirai au froid, Ukokangaite. Mais pourquoi je peux le dire? Je peux le dire parce que j'ai vu cela en avance. Troisième don que Dieu a fait aux fourmis. Dieu a rendu les fourmis capables de savoir que les saisons qui changent ne sont pas destructrices par elles-mêmes. Et le sont pour ceux qui manquent de connaissances et de discernement. Quand quand les autres animaux sont en hibernation, ne peuvent manger, quand les autres même, il semble, c'est durant l'hiver, que même les lions meurent en cascade, que même d'autres prédateurs meurent parce qu'ils ne peuvent avoir des proies, la fourmi vit, et vit normalement. Un chercheur a même dit, après l'hiver, les trois quarts des fourmis ont un bon point. Tellement ils ont mis des côtés. Frères et sœurs, tout passe. La beauté passe. La force passe. La capacité à produire et amasser passe. Ce que nous sommes aujourd'hui, nous ne le resterons pas. Et puisque nous savons que tout passe, nous devons nous préparer. Quand j'étais petit, je me moquais de mon père. Il avait des maux de dos tout le temps. Un jour, il m'a parlé d'une maladie que je connais à l'âge de 15 et 16 ans. Il me dit, Roland, il y a une maladie qui s'appelle le lumbago. Il dit, quand tu te courbes, tu ne peux plus te relever. Ou te relever devient un exercice difficile. Je me moquais de lui, d'une certaine façon dont il marchait. Jusqu'à ce qu'un jour, mon épouse me dit, Roland, j'ai fait un constat, tu commences à marcher comme papa. L'âge, beaucoup de choses changent. Cette force que tu as, tu ne l'auras pas toujours. Un jour, je prêchais l'évangile à une jeune fille. Elle a été en contact avec moi lors d'une campagne d'évangélisation. C'est une fille de joie, une prostituée. Très belle présentation. 26 ans. Deux enfants, et dit, pasteur, je suis obligé de faire ça. Sinon, mes enfants ne vont pas manger. Je l'ai appelé au bureau, on a discuté. Je lui ai dit, tu sais, aujourd'hui, toi-même, tu me dis, quand tu sors sur le boulevard, tu es celle qui attire le plus de clients. Mais je me dis, est-ce que tu as entendu parler des prostituées de 55 ans? Tu as entendu parler des prostituées de 60 ans? Quand à 60 ans, tu sortiras encore sur les boulevards, il y aura une jeune fille de 17 ans qui est comme la lune. Et toi, on est en train de te voir brouillon, elle propre. J'ai dit, pense à demain. Cette force d'attraction que tu as aujourd'hui, tu ne l'auras pas éternellement. Je lui dis non seulement accepte Christ comme Seigneur et Sauveur, mais si tu peux étudier, étudie. Sans homme, tu peux devenir autonome. Pense à demain. J'aimerais dire demain, c'est prépare. Et la plus grosse erreur de préparer, c'est de préparer demain quand demain arrive. Quand demain arrive avec ses difficultés, quand demain arrive avec ses contours, nous commençons à les préparer. Ce que nous préparons nous met à l'abri des difficultés. Dans Ecclésiaste, au chapitre 11, verset 10, les sages disent aux jeunes, jeunesse et aurore sont vanité. Jeunesse et aurore sont vanité. Français courant dit jeunesse et vigueur se dissipent comme de la fumée. Que des gens qui ont vécu comme s'il n'y avait pas un demain. Et qui dans leur aujourd'hui moissonnent les séquelles, les conséquences de leur hier. Plein d'insouciance. Je parlais avec une jeune fille, une jeune femme, 36 ans, rien ne va dans sa vie. Elle a dit cette phrase qui m'est restée. Elle dit, pasteur, j'aurais voulu que la vie soit comme une cassette VHS et qu'on fasse rewind. Qu'on retourne 14 ans en arrière. Comme ça, mbeba on a salakina kimango. La vie ne revient jamais. Et les fourmis disent, demain, se prépare. On voit la fourmi active aujourd'hui parce qu'elle a demain dans sa tête. Dans Genèse chapitre 41, verset 29 à 31, nous voyons une fourmi, mais humaine. C'est Joseph qui explique au Pharaon les songes. Non seulement les songes qu'il a eus, mais aussi qu'il lui montre que deux saisons vont arriver. Deux saisons qui vont se suivre, mais deux saisons au contenu différent. Écoutez ce que Joseph dit à Pharaon. Voici, il y aura sept années de grande abondance dans tous les pays d'Égypte. Et puis il dit, sept années de famine viendront après elle. Et il dit, l'on oubliera toute cette abondance au pays d'Égypte. Et la famine consumera le pays. Quelquefois, quand nous avons l'abondance, nous n'avons aucune idée que la disette va suivre après. Tu es fort aujourd'hui. Un AVC peut te réduire à la capacité d'agir. Et si tu n'avais pas mis de l'argent de côté, tu deviens un problème pour toi-même et les autres. Tu ne penses pas à demain. Congé technique, on met les gens de côté. Est-ce que tu penses à cela ? quand on a vécu quelques années comme moi, on arrive à devenir sage. On arrive à voir, regarde tel homme, il avait mal vécu, voilà où il est arrivé. J'ai souvent répété cette phrase, mon père me disait, il n'y a pas de nouvelles gaffes, il n'y a que de nouveaux gaffeurs. C'est-à-dire les anciennes gaffes qui trouvent de nouveaux candidats pour les commettre. Et je prie que ça ne soit pas toi. Joseph ajoute encore, cette famine qui suivra sera si forte que l'on ne s'apercevra plus de l'abondance dans les pays. À cause de leur côté prévenant, qui les rend capables de voir ce que les autres ne voient pas. Les fourmis vivent presque à contre-courant. Les fourmis appauvrissent un peu leur aujourd'hui pour enrichir leur demain. Les fourmis, elles se posent des questions à un moment où personne ne se les pose pour ne pas se les poser quand elles vont se poser. Les fourmis résolvent les problèmes qui n'existaient pas avant, afin que quand le problème va se présenter, qu'ils puissent dire au problème, trop tard, j'avais déjà trouvé la solution. J'ai souvent eu à répéter cette phrase que mon père, mon pasteur, cet homme qui m'a influencé, il m'a dit, Roland, dans la vie, l'idéal, c'est de faire des prières préventives. Il dit, celui qui ne fait pas des prières préventives sera obligé de faire des prières curatives. Et les prières curatives, ça coûte beaucoup. Aide-moi à résoudre aujourd'hui les problèmes de demain. Vous travaillez avec un collaborateur, vous commencez à voir, celui-là, je dois m'en débarrasser. Je ne vais pas attendre que les problèmes se posent. Avec tout ce que cela peut avoir comme effet, je dis ça, une manière de prévenir. Et j'aime quand Dieu est venu nous parler ici par la bouche du pasteur Grasumbela. Dieu a saisi le cœur de Saraï. Saraï comme une fourmi a résolvé un problème futur, mais dans le présent. Chasse Ismaël. Il avait dit qu'Abraham s'est senti mal. Il ne doit pas hériter avec mon fils. Saraï comme une girafe avait vu le futur au présent. S'ils grandissent ensemble, il va croire qu'il est un ayant droit. Il est bon qu'il soit mis de côté. Seigneur, donne-moi la clairvoyance et la lucidité de voir des problèmes avant qu'ils ne puissent exister. La fourmi, elle se crée des petits problèmes et des agréments aujourd'hui pour s'éviter des grands problèmes demain. Quand la fourmi est en train de garder, les autres sont à la plage. Ils rentrent avec leur maillot de bain fourmi. Maille le Zaki moto. Maille à plage fourmi. Au raté. Il dit, bon nager Nabino. Donne-moi des fourmis qui ne se laissent pas entraîner par les autres, qui ont une vision, qui ont une révélation et qui vont dans cette direction, même quand tout le monde, n'ayez pas peur d'être anachronique, n'ayez pas peur quand tout le monde danse à gauche, vous dansez à droite parce que Dieu vous l'a dit. Ceux et celles qu'il prépare leur demain aujourd'hui ont toujours ces trois caractéristiques après coup. Première caractéristique, on les comprend, non pas pendant qu'ils agissent, mais lorsque les problèmes se posent. On ne vous comprend pas au moment où vous agissez. C'est quand les problèmes se posent. Deuxième caractéristique, ils deviennent forts lorsque les autres s'affaiblissent. Pourquoi? Parce qu'ils ont anticipé. Troisième caractéristique, je l'ai mentionné, ils solutionnent des problèmes avant qu'ils n'existent et sont sereins au moment où ces problèmes apparaissent réellement. Il y a des choses à résoudre. Toi, papa, qui as eu des enfants par-ci, par-là, au-delà de ta femme légitime, tu as eu 4, 5, 6 dehors, prépare un testament. J'aimerais insister, prépare un testament. Parce que chez nous les Africains, surtout les Congolais, non, ce qui est au bon testament, au dernier esprit de mort est royauté. Celui qui prépare un testament invite la mort. Ça, la maison de Lingwala, c'est pour Kabongo. Les terrains de Mpasa, c'est pour Kabatumbi. Ma voiture, c'est pour Kankolongo. Bon, pour que ça change aussi, sinon tu vas dire qu'il va faire une direction. Et mon vélo, c'est pour Matondo. Écris. Et tu peux même les appeler. Tu leur parles d'avance. Ils se fâchent, mais ils savent. Que des gens qui veulent dire les choses à la fin. Allez, boya, papa zana mama et mon ambeto. Et tu as trois enfants, il y a Zacharie, Zakodi et Zaché. Donc ma sine, il y a Za, Za, Za. Et maintenant on se demande, c'est pour Zakodi, Zacharie ou Zaché? Et Zakodi va vous dire, hein, attends, si ça gnion, c'est toi qui t'avais 4 avec Zako. On en rigole, mais ce sont des problèmes. Donne-nous des gens qui résolvent les problèmes de demain, aujourd'hui. J'aimerais aussi dire, toi, papa qui es ici, enfant de Dieu, ce robot taliban, d'ailleurs, sa madame. Pourquoi me dire sur le lit des morts, Mado? À part mi balou na laksara yowana na botala pe mi sat na gemina bimi sina ka bangonyo so un ami me disait il savait qu'ils étaient nés à 8 officiellement plus 4 mais dit le jour où papa est mort on a vu 28 et dit parmi les autres qui venaient il n'y avait pas à nier quand l'un venait je dis mais on est ingat. Demain se prépare. Si quelqu'un est d'accord avec moi, qui m'aide à dire Amen. J'aime ce que Proverbe 31, verset 25, parlant de la femme vertueuse. Écoutez ce qu'elle dit en rapport avec les problèmes. Elle se rit de l'avenir. Elle s'est tellement préparée que quand elle voit le futur, elle rigole. Le futur ne me fera rien. Une autre version dit, elle sourit en pensant à l'avenir. Elle regarde l'avenir avec confiance. Parents, préparez demain. Vous avez des enfants qui ont 5, 6 ans. Commencez à préparer leur université. Commencez à mettre de l'argent de côté. Je prie que je vive jusqu'à 100 ans. Mais si Dieu me décide de me prendre, que des enfants dont les standards de vie changent parce que papa est parti. Il n'a jamais épargné. Il n'a jamais mis de côté. Quelquefois, nous devons appauvrir notre aujourd'hui pour garantir le demain de nos enfants. Un compte ouvert quelque part, bloqué. Vous aussi, les mamans, esclaves de Maya Sika. Non, bijoux un peu, mais pensez aussi aux enfants. Qu'il est bon, papa parti, mais on peut se retourner, on peut regarder dans le compte de la première fille à 50 000 dollars. Dans le compte de la deuxième, 40. Même si papa ne ressuscite pas, on peut tenir. Sinon, c'est la nostalgie. Papa yo wana yo keye. Ngai wa yo bakomi konyo kolonga ye. Bongisaka esika, esika yo zaliye. Il y a des enfants qui étudient au Lupio, papa, pas. Il commencera à étudier à l'Athénée de la zone à côté de mes parents. Seigneur, si jamais un jour tu me prends, que j'ai suffisamment préparé demain, et qu'avec ou sans moi, que ces enfants vivent bien. Si quelqu'un est d'accord avec moi, qu'il m'aide à dire Amen. Proverbe 25, verset 1 à 10, nous parle de la parabole des 10 vierges. Elles étaient toutes vierges, elles avaient des aptitudes morales. Moralement, elles ne se sont jamais laissées toucher par les hommes. Mais au-delà de cette richesse morale, un groupe de 5 avait une valeur, la sagesse. L'autre, vertueuse, elles étaient vertueuses, mais elles manquaient la sagesse. Quand elles attendaient que l'époux vienne, les autres ont dit, nous allons garder une partie d'huile. Elles sont allées acheter. Les autres enthousiastes, les autres se disaient, qui sait, l'attente du mari peut durer. Cherchons quelque chose en plus. Aide-moi à résoudre le problème de demain, aujourd'hui. Et plus tard, quand on leur a dit, le mari est arrivé, vertueuse, vierge, mais lampe éteinte, pas d'huile. Elles ont commencé à aller vers les autres. Est-ce que tu peux me prêter un peu d'huile? Mais les autres qui avaient vu avant ont résolu un problème avant que les problèmes n'existent. Seigneur, aide-nous. Deuxième chose que les fourmis nous apprennent que l'autogestion est un atout. L'autogestion est un atout. C'est-à-dire seuls et ceux qui savent bien faire des choses sans la pression, sans les contrôles de l'extérieur, font toujours la différence. Qu'il y a des gens qui, pour leur bien-être, on doit les pousser. Mais la Bible est parlant des fourmis, et ça c'est Proverbe 6, 6 à 8, il dit, elles n'ont ni chef, ni maître, ni contrôleur, mais elles préparent leur nourriture en été. C'est-à-dire, personne ne les pousse. Qu'il y a des gens, pour qu'ils fassent des choses, il doit y avoir quelqu'un. Réveille-toi, va étudier, sois discipliné, fais ceci. L'autogestion est un atout. Beaucoup de gens ont besoin de l'impulsion extérieure, besoin d'une locomotive pour les pousser, besoin d'un œil étranger qui exerce un contrôle pour ne pas faire certaines choses. Et ça, c'est surtout notre spécialité à nous, Congolais. Secrétaire de direction, tant que le chef là, conscience professionnelle, dès qu'il tourne les dents, tous les courriers des côtés. C'est plus 8 heures au travail que 8 heures de travail. Allez chez les tailleurs, les mamans couturières, même remplies du Saint-Esprit, l'eau coûta. Elles préparent l'habit de X quand X est là. Tant vous voyez quand des osanga. Et bon, tout kanga. Dès que tu sors, bouton en a qui. Mais les fourmis n'ont pas besoin de ça. Ni chef, ni contrôleur. Mais ils font tout. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. La version française courante dit, elle n'a ni surveillant, ni contre-maître, ni patron. Waouh. Les fourmis savent que l'autogestion, comme j'ai dit, enrichit. Et les fourmis mettent ces choses en pratique parce qu'elles sont détentrices de ces choses d'une grande importance. C'est trois choses que j'aimerais que vous puissiez noter. La première, elles ont une vision. Elles font cela parce qu'elles ont une vision, un objectif qu'ils poursuivent, qu'ils veulent atteindre et pour lesquels ils sont prêts à payer les prix. Les fourmis sont conscients qu'ils auront en plus une fois cette vision atteinte, mais ils ont aussi conscience de ce qu'ils peuvent avoir en moins cette vision non réalisée. Proverbe 29, verset 18 dit, lorsqu'il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Les fourmis poursuivent quelque chose. Parce qu'ils poursuivent cette chose, ils savent poser des actes sans être poussés. Deuxième chose, les fourmis sont disciplinées. Parler de la discipline, parler de la capacité à se soumettre à des règles ou à des ordres contraignants en vue d'atteindre un résultat souhaité et voulu. Es-tu discipliné? Mon pasteur disait, celui qui n'est pas discipliné lui-même aura difficile à se laisser discipliner. Si toi-même tu n'arrives pas à te donner des règles et à les obéir, tu n'obéiras jamais aux règles de l'extérieur. Mais donne-nous des hommes qui peuvent dire, je vais me réveiller à 4h30. Je vais dormir à 22h. Quelle que soit l'émission qui passe, je veux dormir. Et si tu apprends comme ça à t'imposer des choses, tu iras loin. J'ai beaucoup aimé le pasteur Thompson en parler mercredi ici en enseignant. Il a dit, il a été prouvé en étudiant, les champions, les gens qui réussissent sont des gens qui font des choses de manière habituelle et routinière. Ils font les mêmes choses. Ils s'imposent des choses. Que des gens qui vivent au taux du jour. Disciplinés, chaque mois je lirai un livre. Chaque semaine je ferai ceci. Les fourmis sont disciplinées. Et dans la discipline, il y a des choses qu'on s'est décidé de ne pas faire. Mais le deuxième aspect, il y a des choses qu'on s'impose de faire. Et on les fait non pas parce qu'on a envie de les faire, on les fait parce qu'on doit les faire en vue du résultat. Es-tu discipliné? Et quand les fourmis, quelquefois, sortent, ils sortent pour aller chercher la nourriture, non pas parce qu'ils ont envie, parce qu'ils doivent. Leur corps leur dit, reposez-vous, allez faire comme tout le monde, discipliné, je veux le faire. Quand les fourmis partent comme ça, ils entendent les autres chanter, danser. Ils regrettent, ils disent, ah, j'aurais voulu aussi aller chanter et danser, mais je m'impose, je dois faire ça. Qu'est-ce que tu es prêt à rater parce que tu veux atteindre un objectif? Il y a des gens qui ont difficile à dire non. Non aux amis, non à toutes sortes de choses. En Corinthiens chapitre 9, versets 25 et 27, tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence et les font pour obtenir une couronne corruptible. Mais j'aime ce que l'apôtre dit au verset 27. Je traite durement mon corps. Il ne dit pas qu'on me traite, je traite. Je traite durement mon corps. Français courant dit, je le maîtrise sévèrement. La version Darby dit, je la servis. La version Nouvelle Bible Seconde dit, je le traite comme un esclave. Je le traite durement. Je termine parce qu'à cause du temps, je me rends compte que je ne toucherai même pas les damas ce matin. Troisième et dernière chose, que les fourmis ont, la maîtrise de leur être. Maîtrise de leur corps, maîtrise de leur âme et maîtrise de leur esprit. La maîtrise de soi, combien de gens n'ont pas ça? La Bible vante la maîtrise de soi, cette capacité à contrôler ses actions, à contrôler ses réactions. Proverbe 16, verset 32 dit, celui qui est maître de lui-même vaut mieux que celui qui prend ou qui conquiert des villes. Une autre version dit, mieux vaut être un maître de soi que maître d'une ville. Une autre version dit encore, qui gouverne son esprit vaut mieux que qui gouverne des villes. Est-ce que tu gouvernes ton esprit? Proverbe 25, au verset 28, ajoute, comme une ville forcée et sans muraille, ainsi est l'homme qui n'est pas maître de lui-même. Et le semeur dit, celui qui ne sait pas se dominer est comme une ville démantelée qui n'a plus de remparts. Nous continuerons la prochaine fois en parlant des damans et nous toucherons aussi les lézards ainsi que les sauterelles. Mais ce matin, Dieu a voulu que les fourmis nous enseignent. Et ces créatures minimes nous enseignent deux choses. Demain, se prépare. Et deuxièmement, l'autogestion est un atout. J'aimerais nous inviter à baisser nos têtes.